Dialogue entre Congolais, à la présentation, Jean-Claude Kumbakemanga.
Bonsoir, au menu de ce dialogue entre Congolais, l'Union Européenne condamne l'usage prématuré de la force par les autorités congolaises lors des récents événements de Kinshasa. Quelle est la préoccupation de l'Union Européenne et comment réagissent les autorités congolaises? Pour ce qui est de vos réactions sur ce sujet, Innocent de Kisangani dit, je cite, « Les ambassadeurs ne doivent pas décider en lieu et place de notre gouvernement légitime, sinon à quoi servira notre légitimité ?» Par contre, PP de Kisangani, vous félicitez les ambassadeurs de l'Union Européenne, car les autorités congolaises ont souvent l'habitude, selon vous, de ne pas se préoccuper des morts victimes de ce genre d'événements. Mugabe, Migo, Ruta, Kangwa, Abukavu, Sud Kivu, vous donnez raison à l'Union Européenne, car dites-vous, je cite, notre gouvernement commence à se comporter comme un gouvernement dictatorial. Quant à Paul Mangani, à Matadi au Bas-Congo, lui s'étonne de la position de l'Union Européenne, qui selon lui est le parrain des autorités actuelles responsables, dit-il, de ces tueries. Dernière réaction dans cette partie, Abel Ambujimaï dans le Qatar oriental pense, comme l'auditeur de Matadi, que l'Union Européenne récolte ce qu'elle a semé en parrainant un pouvoir dictatorial au pays avec des belligérants qui tuent et pillent facilement. Comme d'habitude, dans cette émission, nous reviendrons sur ces réactions tout à l'heure avec nos invités, l'ambassadeur britannique Andy Spax, dans ce studio, et au téléphone, le député national Antoine Gonda, député national de l'AMP, à qui nous disons bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission ? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Les diplomates de l'Union Européenne ne cachent pas leur indignation face aux récents affrontements du 22 et 23 dernier à Kinshasa. Les ambassadeurs membres de l'Union Européenne ont condamné au cours d'un point de presse tenu mardi dernier à l'ambassade d'Allemagne à Kinshasa le recours à la force lors des derniers événements survenus dans la capitale, tout en dénonçant les pertes en vies humaines revues à la hausse. Ils ont aussi appelé les autorités du pays à garantir un espace de liberté d'expression pour que l'opposition joue pleinement son rôle. Condensé de la déclaration des diplomates européens avec Claude Quinza.
Dans une déclaration commune lue par Karl Albrecht Wokalek, ambassadeur d'Allemagne en RDC, les ambassadeurs de l'Union européenne ont dénoncé le recours prématuré et inadapté à la force par les autorités congolaises dans la capitale, ceci alors que toutes les voies de la négociation n'étaient pas encore épuisées. Ils ont manifesté leur indignation face à ces affrontements et en fait de nombreuses victimes, dont des civils, victimes évaluées entre 200 et 500 morts. Ils ont par ailleurs condamné les nombreux cas de pillage et de viol commis par les militaires de deux camps. À propos du cas de l'ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba, les ambassadeurs de l'Union européenne ont plaidé pour une diplomatie discrète et assuré être en contact avec toutes les parties. Quant au rôle de l'opposition, l'Union européenne a appelé les autorités congolaises à désormais tout mettre en œuvre pour assurer l'existence d'un espace démocratique pour cause, garantir la libre expression de toutes les opinions politiques. Par ailleurs, les diplomates ont aussi dénoncé de graves violations des normes internationales. Ils ont pris acte des excuses des autorités congolaises après le bombardement des ambassades d'Espagne, de Grèce et de bureaux du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, de même que l'intrusion de militaires dans la résidence de l'ambassadeur d'Italie à Kinshasa.
Monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Andy Spax, comment vous expliquez une telle fermeté de la part des diplomates européens que vous êtes vis-à-vis du pouvoir en place?
Il me semble tout à fait normal et naturel que nous soyons fermes, étant donné ce qui se passait. Nous n'avons pas eu, jusqu'au point où les armes lourdes ont été lancées et tout cela a éclaté, nous n'avons pas eu des affrontements où les civilians se trouvaient devant les militaires du côté de M. Bemba. qu'il est menacé, qu'il est déjà tué, quelque chose comme ça, en vue d'action, on aurait compris pourquoi c'était nécessaire pour le pouvoir en place de réagir avec force, étant donné que ce n'était pas quelque chose que la police pourrait gérer. En ce cas-là, on aurait compris que c'était nécessaire d'utiliser les militaires. Mais ce n'était pas comme ça. Il y avait toujours l'espace pour le dialogue, pour résoudre cette question de l'armée privée qui restait effectivement un résidu de la guerre civile autour de Jean-Pierre Bemba. Je pense absolument que Jean-Pierre Bemba et les gens de Bemba auraient dû être plus flexibles, eux, auront dû reconnaître la nécessité de mettre fin à une armée privée étant donné la nouvelle situation. Mais tout cela, c'est pas la question. La question est si ou non c'était bon pour le pouvoir de lancer les armes lourdes, y compris les armes lourdes sur la cité, dans des quantités inimaginables. Évidemment, une telle chose allait tuer beaucoup de gens. Et il y avait beaucoup de gens tués. Et en ce moment, il y a les hôpitaux et les morgues pleins de cadavres. Des civils, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces civils? Ces civils qui ont voté plein d'espoir dans les élections. Pourquoi est-ce qu'ils doivent
subir ce qu'ils ont subi?
Subir tout cela.
Donc voilà un peu qui explique selon vous la fermeté que vous avez exprimée dans votre déclaration.
Oui, je trouve que cet acte de la part des autorités était évitable, déplorable et irresponsable.
Mais pourquoi vous n'êtes pas intervenu, par exemple, lorsque le président de la République a signé le décret qui limitait le nombre de policiers à 12 pour l'ancien vice-président Bemba?
Moi-même et mes collègues de l'Union européenne et des autres ambassadeurs, nous avons certainement ajouté nos voix pour faire la pression pour que il y ait une solution pour une garde de corps que M. Bemba aurait trouvé adéquate et qui aurait pu mettre fin à cette tension entre les gardes de chez Bemba qui restaient. C'était un dialogue qui continuait. Il y avait des difficultés et certainement là, je blâme le manque de flexibilité de côté de M. Bemba. Mais le point est qu'il y avait toujours un dialogue.
Voilà. Nous avons en ligne Antoine Gonda, député national de l'AMP. Comment, dans le camp du président de la République et des autorités congolaises, comment vous accueillez cette position de l'Union européenne, Antoine Gonda?
Bon, premièrement, il y a d'abord la surprise par rapport à la réaction des ambassadeurs de l'Union européenne, parce que au niveau d'abord de la forme, je crois qu'il y a quand même une certaine violation quelque part de la Convention de Vienne. Nous ne sommes plus en transition, mais en tout cas c'est un gouvernement donc issu en cas des élections, et à la lueur il y avait une expression, donc un point de vue à pouvoir donner, ça aurait pu être fait peut-être par l'ambassadeur Swing, donc en qualité donc, de représentant du secrétaire général des Nations Unies, ou bien les ambassadeurs auraient pu s'exprimer en tout cas auprès du ministère des Affaires étrangères. Donc ça c'est d'abord un premier point. Deuxièmement, par rapport au contenu en tout cas du communiqué des ambassadeurs de l'Union européenne, il y a 5 points qu'on a relevés. Le premier point, si je me résume, c'est d'abord l'action précipitée et prématurée du gouvernement par rapport aux événements. Deuxièmement, c'est l'usage proportionné de la force donc qui a été relevé. Troisièmement, c'était l'annulation par rapport à la destruction des cartels de chancellerie. Et on a le village de position politique. Et puis le dernier point que l'ambassadeur britannique a encore soulevé ici, c'était le nombre de morts, donc 200 morts. Alors, très rapidement par rapport au premier point, c'est-à-dire une action précipitée, où on estimait qu'il y avait encore une marge de manœuvre, je dirais ceci, c'est qu'au mois d'août, entre le premier et le deuxième tour, on sentait qu'il y avait déjà une tension. Ce qui a fait qu'il y a eu des négociations et un acte d'engagement pour la conclusion de la paix du processus électoral a été signé le 29 octobre. par donc le premier le parti donc l'ANC et l'UN qui étaient les deux partis en fait par rapport aux élections. Alors le 13 novembre, après cette acte d'engagement, le président de la République avait sous pression de certains ambassadeurs en fait, de la communauté internationale a signé à acheter et disons donc pour le bien d'affaires, a accepté de signer un décret qui en fait précisait finalement le nom militaire ou de garde qui existe, qui est trouvé à droite, en concertation d'ailleurs avec les cadres de ce signe d'accord là-dessus. On a donné certains avantages, et après cela, le 15 novembre, ça a été confirmé, publié dans le journal officiel. Au mois de février 2016, M. Jean-Pierre Desplats a commencé à protester le document qui avait été signé par Dr.
C'est-à-dire celui de 12 policiers.
Pardon?
C'est-à-dire le document qui prévoyait 12 policiers pour Jean-Pierre Desplats.
On est passé à 24, parce que là, il n'avait pas précisé le nombre, mais le décret qui avait été signé, et d'un premier accord donc avec les quatre vice-présidents, M. Jean-Pierre Desplats a commencé à protester en disant voilà, il acceptait les avantages économiques, et tous ceux qui étaient gardes, il était en train de protester. Bien qu'il s'était mis d'accord, au moment de cette période, il a commencé à protester cela. Les ambassadeurs, donc les anciens ambassadeurs de Serbie, y compris M. Suisse, sont allés voir M. Desplats pour le convaincre. Et finalement, l'ambassadeur Suisse, à la date du 12 mars, est allé voir le chef de l'État pour demander s'il y avait moyen peut-être, par rapport à ce dernier point de la garde des vice-présidents, s'il y avait moyen de pouvoir ouvrir cela à la hausse. Et le chef de l'État avait demandé justement au vice-président, donc à M. Suisse, c'est-à-dire au vice-président, à l'ancien vice-président, donc à M. Jean-Pierre Desmas, comment dirais-je, de parler de l'intérieur. Malheureusement, ce dernier a refusé, et le 19 mars, il a pris la décision de faire une interview au Parlement en langue nationale, de donner sa position publique, et qui est passée en boucle le 19, le 20 et le 21, en disant que donc l'ANC, donc la milice, n'allait pas rendre les armes, n'allait pas aller au passage, et finalement que les problèmes étaient ailleurs.
Donc, on peut dire que c'est cette interview...
Non, attendez, je termine tout mon rapport, oui. Et le 22, parce que le 21, le 19, le 20 et le 21, après sa réaction, tout le commandement d'état-major était à la date du 22. Donc, le colonel général pour voir justement quelle était la solution à pouvoir prendre. Au niveau de la police, c'était la même chose. Et c'est à ce moment-là, donc, ce matin, vers 10h, soit, si je m'accuse, que l'ANC, donc l'armée de libération du Congo, donc la milice de Jean-Pierre Desplats, a décidé de jouer le feu, où il y a eu 7 morts du coup et 2 blessés, ainsi que 2 enfants en uniforme qui avaient été tués sur le 24 novembre.
Ça c'est votre version. Ça c'est votre version. Antoine Gonda, député national de l'ANP, vous avez suivi l'ambassadeur Andy Sparks de Grande-Bretagne qui même condamne le manque de flexibilité dans le camp de Bemba, mais il a dit que c'était encore négociable.
La force de la flexibilité prématurée, puisque je vous ai démontré ici que nous avons tout utilisé. Au moment où les gens ont commencé à tirer, que pensez-vous de la réaction devait être de pouvoir négocier encore alors qu'il y avait une personne qui finalement a décidé de faire une bombe de Gaza sur le boulevard du 30 juin? Alors, ça c'était le premier point. Par rapport à l'usage aussi disproportionné, parce que là ça a été aussi relevé, mais on maintenant les règles tactiques, en tout cas traditionnelles, prises, quand quelqu'un a un bataillon, pour pouvoir contenir ce bataillon, il faut quand même qu'il y ait 3 bataillons. Un bataillon, ça comprend à peu près 700 personnes. Or, ici, il y a 2 bataillons qui sont intervenus, traditionnels, donc c'est-à-dire 1400 personnes. Et si vous regardez bien, les champs des opérations, qui était visé, c'était quoi? C'était là où il y avait la garde du vice-président, l'ancien vice-président, c'est-à-dire à sa résidence officielle, en face du boulevard du 30 juin, et à côté de sa résidence privée, donc du côté du fleuve.
Malgré cela, il n'y avait pas de char quand même dans le camp de Bemba.
Mais les matériels qui étaient utilisés, qui, on appelle, c'est-à-dire c'est par exemple des champs de prix, qui ont été endommagés, parce que normalement, la garde de la milice de M. Jean-Pierre Desplats était d'eau au fleuve, donc il tirait de l'autre côté, tandis que l'armée régulière était de l'autre côté du boulevard et était en train de récolter du côté du fleuve.
Oui, Antoine Gonda, je suis désolé, nous sommes obligés de vous couper le temps de tenter une nouvelle ligne parce que la qualité de votre son n'est pas bonne. Le temps pour nous de regretter l'absence dans cette émission du professeur Labana, qui est docteur en relations internationales. Pour des raisons techniques, nous ne sommes pas en mesure de l'avoir dans cette émission. Nous poursuivons ce dialogue entre Congolais. Toujours à propos de la déclaration de diplomates européens qui condamnent l'usage de la force prématurée selon les diplomates de la part des autorités congolaises lors des récents événements. Selon les diplomates européens, le peuple congolais est le premier perdant des affrontements armés de la semaine dernière entre les FARDC et la garde de Jean-Pierre Bemba. L'ambassadeur de la Grèce, Loannis Christofilis, l'a dit au cours du même point de presse de mardi. Le diplomate grec est revenu sur les conséquences à court terme des dégâts causés par les obus lancés contre l'immeuble hellénique de la Grèce, donc immeuble qui abrite les ambassades de la Grèce et d'Espagne, ainsi que le siège de l'UNICEF et de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC. L'ambassadeur de la Grèce, Loannis Christofilis, on l'écoute au micro de Radio Okapi.
En ce moment, la communauté hellénique y avait comme programme, sous mon impulsion, de faire construire une école d'enseignement des Congolais entièrement gratuite. Elle est obligée de s'équiper des dégâts des obus. Et aujourd'hui, en ce moment, j'avais un rendez-vous à l'université de Kinshasa pour faire reconstruire une clinique de néphrologie modèle, mais l'équipe médicale que j'avais convoquée de Grèce, ils ont sorti avec les événements. Nous étions en train de faire créer une école de l'agriculture et une école de santé aussi à l'Académie ecclésiastique de Mongafrida. Nous avons aussi contraint à arrêter ça parce qu'il n'y a pas maintenant de volontaires de Grèce pour venir enseigner pour de bailleurs de fonds, etc. Alors, comment maintenant vous expliquez moi-même de persuader les bailleurs de fonds, les investisseurs, de venir ici? Alors, qui est le dernier à être puni de cette situation? Le peuple congolais.
Antoine Gonda, député national AMP, vous avez suivi l'ambassadeur grec qui déplore l'annulation de beaucoup de projets, dont cette école gratuite pour Congolais, une clinique de neurologie qui devait être reconstruite pour les étudiants de l'UNIKIN. Bref, bon nombre de projets que des investisseurs et volontaires grecs devaient réaliser, mais ils sont rentrés chez eux. Qu'est-ce que ça vous fait tout cela, Antoine Gonda?
Bon, je dirais que vraiment, je déplore cela parce que, encore une fois, à cause des velléités dictatoriales d'un individu, finalement c'est un gouvernement et toute une population qui est pénalisée par rapport à cela. C'est ainsi que nous avons demandé quand même une certaine lucidité et, comment dirais-je, une certaine compréhension et un soutien de la part de la communauté internationale vis-à-vis d'un processus auquel nous tous nous avons souscrit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter qu'un individu puisse décider de se mettre au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution, bafouer finalement un processus électoral à cause des intérêts personnels au détriment finalement de la volonté d'une majorité. La conséquence, c'est ce que nous avons suivi ici. Les problèmes que nous avons dans l'Ituri, les problèmes que nous avons à l'Est et maintenant à Kinshasa, c'est parce qu'il y a des individus, en ayant des ministres, estiment que par rapport à un problème, il faut absolument qu'il y ait des solutions, des discussions qui font que finalement une personne qui veut investir est en train d'hésiter en se disant mais finalement je vais investir dans un pays où une personne qui commet des exactions ne sait pas être sanctionnée à cause de la ministre que cette personne la détient. C'est ainsi que nous soutenons de tout cœur la solution apportée au problème de Lubanga qui a amené une certaine stabilité au niveau du pays. Maintenant avec le problème de Jean-Pierre Bemba qui a été résolu, en tout cas au niveau de mettre de côté sa ministre, je crois que nous pourrons regarder l'avenir avec sérénité et certainement que le gouvernement fera de son mieux tous ses efforts pour à nouveau ramener cette sérénité, cette confiance finalement que la population a donnée à travers les élections.
On peut vous reprocher aussi d'utiliser la force pour Bemba et la négociation pour d'autres, Antoine Gonda.
Mais il n'y a pas, ce n'est pas seulement une question de... Avec les autres, nous avons commencé par, comment dirais-je, par la force, et puis finalement, on a été contraint encore une fois au niveau de la communauté internationale d'amener des solutions négociées. Avec Jean-Pierre Bemba, nous avons préféré utiliser la négociation parce que nous étions dans le capital et que ce dernier avait dit qu'il allait pouvoir exercer une position qui était républicaine et démocratique. Mais comment voulez-vous exercer une position républicaine et démocratique quand vous détenez une milice en plus dans le capital où il y a les institutions? Okay. Je pense que par rapport à cela, il y a quand même une certaine aberration. Vous serez d'accord avec moi?
Bon, on revient justement à ce que a déploré l'ambassadeur grec. Au moins, vous reconnaissez que c'est à cause de la force disproportionnée, notamment les chars que les FARDC ont utilisés, que tous ces projets initiés par l'ambassade de Grèce sont annulés.
Bon, je pense que quand vous parlez de force, l'usage d'une force disproportionnée, je vous ai montré, d'un point de vue tactique...
C'est l'Union Européenne, c'est un terme que j'ai pris dans la déclaration de l'Union Européenne.
Ben, oui, je comprends, et j'ai réagi aussi par rapport à cette déclaration-là, en démontrant où était la force disproportionnée, au niveau du gouvernement, ou bien c'était au niveau de l'ANC, donc de la milice de Jean-Pierre Bemba, qui a détruit, finalement, deux chancelleries. Et n'oubliez pas que cette milice-là, qu'on regarde bien, finalement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, comme par hasard, c'est la même situation qu'on a vécue au niveau de la République centrafricaine, la Bangui.
Merci, Antoine Gonda, monsieur l'ambassadeur en dispax de Grande-Bretagne. Est-ce que, après tout ce qu'on a suivi de l'ambassadeur grec, est-ce qu'on peut dire que la RDC a perdu aussi un peu lors de ces événements dans la coopération internationale?
Bon, alors, notre engagement pour... aider le peuple congolais reste et demeure très grand. Et nous avons fait cette conférence de presse surtout pour exprimer notre solidarité avec le peuple congolais. Donc je ne crois pas que c'est que moi-même, ou les Anglais ou les Européens, nous avons décidé à cause de tout cela que nous avons tourné le dos, nous avons lavé les mains, nous n'avons rien à faire de plus pour les Congolais. Au contraire, le besoin est toujours là, mais la façon dans laquelle on va le faire, si ou non on peut engager comme vrai partenaire avec ce gouvernement, ça dépend maintenant de comment ce gouvernement va réagir dans l'avenir. Après qu'ils nous ont beaucoup déçus avec cet événement, que nous trouvons irresponsable, et c'est archi important qu'ils mettent les choses encore sur les rails, qu'ils nous convainquent qu'ils sont toujours démocrates, qu'ils ont toujours un objectif d'inclusivité, et qu'ils veulent, avec aussi une opposition et les institutions politiques créées par le processus de Saint-City, qu'ils veulent aller en avance en partenariat avec nous pour avancer sur les 5 chantiers qu'a abordé le chef de l'État. Donc, nous sommes ici pour aider le peuple congolais, ça ne va pas changer. Mais la façon dans laquelle on va le faire, si on le fait en proche collaboration avec le gouvernement ou en laissant à côté le gouvernement, ça dépend du comportement dès maintenant de ce gouvernement.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Une autre préoccupation des diplomates européens, c'est sur les victimes de ces affrontements, avec un bilan revu à la hausse, selon les mêmes diplomates, entre 200 et 500 morts, parmi lesquels des civils. Nous vous proposons le témoignage d'un parent qui a connu 3 victimes parmi ses enfants élèves à l'école Chaumba, dont 2 sont morts et une autre fillette grièvement qui a les jambes broyées. On l'écoute.
Ils étudient à Chaumba. Il y a eu un colonel qui est venu les prendre. Quand les événements ont commencé, ils sont venus prendre 4 de mes enfants. Bon, ils sont arrivés au niveau sur 24. Avant de retomber sur le boulevard du 30 juin, il me semble qu'il y a eu une attaque. Il y a la fille qui déclarait que quand il y a eu l'attaque, ils ont tiré le colonel, ils ont tiré sur mes enfants. Il y a Roland qui est mort, qui a 15 ans et demi, Roland Bangoula, il y a Merveille Bangoula aussi, qui est mort, qui a 8 ans. Et il y a Gracia Bangoula qui est blessée. Ses jambes sont broyées, les 2 jambes. Et pour le moment, il est dans un état très grave, bon, il est traumatisé. On essaie de le mettre dans le dans des cabines isolées avec les autres, mais elles souffrent aussi seulement des traumatismes aussi, mais des jambes sont, je ne sais pas si on va récupérer ça ou quoi. Et il y a Bénédicte Mangula qui est sortie française, qui a 6 ans. Marie, qu'elle ne mange pas, donc elle fait que voir les effets de son décès, de leur grand frère qui est mort.
Antoine Gonda, député national AMP, qu'est-ce que ça suscite en vous, ce témoignage?
J'ai des larmes aux yeux et le chef de l'État, quand il a appris cela, je l'ai vu lui-même verser des larmes, tellement il était dégoûté, déçu. Et malheureusement, ces enfants-là, comme nous l'avons dit, ces enfants ont été tués parce qu'il y avait un policier, un officier qui était là, qui voulait essayer de pouvoir les protéger, les sécuriser. Donc par rapport à cela, je crois qu'au niveau du gouvernement, il fallait quand même qu'il y ait une action de responsabilité.
Et c'est des larmes qu'on pouvait éviter, n'est-ce pas, Antoine Gonda et ces
gens de... Pour pouvoir sauver ces gens-là, quand il y a un enfant qui est tué, comment est-ce qu'on aurait pu éviter cela? Par la négociation, quand il y a un enfant qui est mort, vous avez entendu les témoignages de ce monsieur-là. Je pense que ça se passe d'abord de commentaires. Pour le moment, je suis quand même assez touché par ça, parce que on est allé voir sur place et nous avons vécu cet événement-là. On était malheureux parce qu'il y avait des personnes droguées qui ne se rendaient pas compte qu'il y avait des enfants en face d'eux qui étaient des enfants en uniforme. Et dans ces conditions-là, il était important que le gouvernement puisse intervenir, quoi, que l'armée et la police puissent intervenir pour pouvoir mettre fin à cela.
Merci, Antoine Gonda, ambassadeur Andy Spark de Grande-Bretagne.
Moi aussi. J'ai eu assez de larmes aux yeux dans les derniers jours. Moi-même, je sais pas pourquoi, mais grâce à Dieu, on pourrait dire, moi, j'étais pas dans le pays, mais j'avais reçu, quand tout ça a éclaté, mais j'ai reçu des appels pendant 24 heures pour tous les deux jours, des amis congolais qui se trouvaient sur le plancher des églises, craignant leur mort, une d'entre elles m'a dit qu'après tout cela, elle voulait plus vivre. Elle voulait plus vivre. Elle était si déçue. Donc, moi, évidemment, je partage le sentiment, le vrai sentiment, je suis certain, de mon ami Antoine Gonda par rapport aux terribles choses que ce monsieur a dû souffrir. Il a tous mes condoléances et ma solidarité. Mais il y a une autre chose que je voudrais aborder. Il s'agit non simplement des effets de la bataille, mais aussi la suite. Les gens de tous les deux côtés, mais étant donné les nombres beaucoup plus nombreux de républicains et tout, en particulier le DSSP, il y avait un pillage, et ce pillage continue. Donc, les gens qui ont beaucoup souffert, où le bâtiment ont été détruits, où il y a des enfants blessés, ou ça, c'est apparemment pas assez. On doit donner à ces soldats-là le droit d'aller piller partout, là où ils pensent qu'ils peuvent trouver les choses, et ça continue. Même aujourd'hui, sur l'avenue de la justice, il y avait les petits, comment dit-on, piles de télévision et des biens qui sont là pour que les camions arrivent et que les soldats les mettent dans les camions et les amènent. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est la discipline là?
Antoine Gonda, député national AMP, voilà, vous avez résolu le problème de Jean-Pierre Bemba, mais cela n'empêche pas les militaires, notamment de la garde présidentielle, de piller, comme vient de le dénoncer l'ambassadeur Andy Spax.
Bon, je pense que là, il y a des enquêtes, mais je crois que dès le départ, le chef de l'État avait quand même été très très ferme, et au niveau du gouvernement, c'est que tout militaire qui serait pris en train de piller sera sévèrement sanctionné. Et c'est ce qui est en train de se passer. Évidemment, il y a des dérapages, parce qu'au niveau de l'armée, le brassage se fait rapidement. Il faut pouvoir former les gens, les militaires, pouvoir les éduquer. Et à chaque fois qu'on apprend qu'il y a des actions de telle sorte des actions ignobles, finalement, de pillage, parce qu'il faut bien remonter, ce n'est pas seulement maintenant que ça a commencé, mais c'est depuis l'époque de Mobutu, où les militaires, quand ils pillaient...
Mobutu est parti, Antoine Gonda.
S'il vous plaît.
Mobutu est parti, est-ce qu'il faut encore le
citer? Non, je dis depuis cette époque-là, où les militaires, quand ils commettaient des exactions, donc ils étaient en train de piller, il n'y avait pas de sanctions. Ce soir-ci, on a décidé de pouvoir sanctionner. Je ne reviens pas à l'époque de la Deuxième République, mais je suis en train de parler d'un cas, c'est-à-dire qu'un cas d'impunité. Et là, je partage tout à fait le point de vue des personnes qui lui sont victimes des pillages pour lesquelles les militaires doivent être sanctionnés. Et ça, c'est le point de vue du gouvernement et du chef de l'État en premier. Bien évidemment, c'est ce qu'on essaie de faire, parce que finalement, il y a des gens, donc là, je ne vais pas commencer à aller faire, comment dirais-je, l'apologie de certains individus qui sont en train de commettre ces actes-là, qui découragent finalement une population et des investisseurs. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir les identifier rapidement et aussi de les sanctionner. En tout cas, toute personne qui commet ce genre d'exaction est directement sanctionnée. Donc par rapport à cela, vous prêchez un converti, non seulement à mon niveau, mais au niveau du premier responsable du pays aussi.
Voilà. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Dialogante Congolais, ce soir, l'Union Européenne condamne l'usage prématuré de la force par les autorités congolaises lors des récents événements de Kinshasa. Quelle est la préoccupation de l'Union européenne et comment réagissent les autorités congolaises? Nos invités au débat, c'est d'abord l'ambassadeur britannique en RDC, Andy Sparks, le député national de l'AMP, Antoine Gonda, et nous regrettons encore une fois l'absence du professeur Labana Assaya Abar, que nous ne pouvons pas joindre pour des raisons techniques. Nous poursuivons cette émission après ceci.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par téléphone, composez-le 081 89 066 78.
Le dernier aspect de la préoccupation des diplomates européens ce soir, c'est qu'on concerne l'avenir de l'opposition politique. On écoute d'abord l'inquiétude de cette opposition dans cet extrait du sénateur du MLC, Romain Nimi, c'était hier dans Dialogue entre Congolais.
Je suis d'abord heureux d'une chose, c'est que mon droit connaît la nécessité d'une opposition, la nécessité de la protection de cette opposition pour que la démocratie fonctionne. C'est une très bonne chose. Maintenant, le vœu de l'opposition, c'est que ces proclamations de foi soient suivies des faits. Tant mieux si dans les faits, le pays évolue comme cela. Je suis congolais, je serais heureux pour mon pays. Mais ce que je veux dire, comme j'ai dit au début, et le président de la République l'a reconnu, en parlant de dérapage, il y a certains signaux qui inquiètent. Certains membres de mon parti ont été pires, je suis prêt ici. Le président François Mamba lui-même, mais pour être franc et honnête, je ne parlerai pas d'une tendance répressive, pas encore. Je peux dire que la plupart d'entre nous n'avons pas subi de tracasserie, il faut être honnête pour le dire, et je ne peux pas déduire de ces quelques faits une volonté manifeste de nuire à l'opposition. Et mon vœu, c'est que, dans les faits, l'opposition soit réellement sécurisée.
Monsieur l'ambassadeur Andy Sparks, vous dites dans votre déclaration qu'il faut un espace de liberté à l'opposition. Est-ce que vous, en Union européenne, vous êtes inquiet?
Oui, nous sommes inquiets. Je suis content d'entendre que le monsieur là pense que jusqu'à ce point, l'évidence n'est pas là, que c'est une tendance à nuire à l'opposition. C'est bon de l'entendre, parce que ça c'est archi important dès maintenant. Je cite quelque chose qui a été prononcé dans notre Parlement britannique par, je crois, notre ministre de Développement. Il a dit, suite à ces événements, l'RDC a besoin de développer une opposition parlementaire légitime qui permet à l'opposition une voix et encourage le vrai débat. Le débat doit prendre la place de la violence. Et jusqu'à ce point, c'est cet changement qu'on cherche. Comme j'ai dit l'autre jour, il faut un esprit de réconciliation, il faut changer l'esprit de la guerre. L'esprit de la guerre est toujours avec nous. C'est comme une maladie qui ne disparaît pas. Et c'est revenu ces derniers jours. On pensait qu'on l'avait écrasé avec les élections libres et transparentes que nous avons eues et la réussite du processus de Sun City, mais ça s'est revenu. Et c'est ça que je déplore. Il faut à tout prix revenir à l'idée de réconciliation et le vrai débat politique. Donc, si le gouvernement peut nous montrer maintenant que, pour de vrai, il veut maintenant habiter dans un domaine démocratique, avec liberté d'expression, bon, là, nous sommes encore sur les rails.
Et vous dites encore que vous n'allez pas tolérer le déraillement du processus démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, ça veut dire que pourquoi est-ce que nous sommes engagés, nous, tous les pays, avec tant d'argent et d'efforts? C'est pour le bien-être du peuple congolais qui a beaucoup souffert pendant des décennies d'un manque de gouvernement et aussi un manque de leur propre voix. Nous pensons, nous, nos valeurs sont que la démocratie peut libérer le peuple. Et on pensait qu'on était là, et avec ces événements ces derniers jours, Le peuple a encore souffert les effets de la guerre. Le peuple de Kinshasa, qui pendant la guerre, ironiquement eux-mêmes, n'ont pas si subi ces effets. Maintenant que nous avons, on suppose, au moins la paix, c'est eux qui souffrent. Bon, alors, ça ne va pas.
Donc, vous avez l'impression que le processus déraille.
Bah, c'est évident que c'était déraillé les derniers jours, mais est-ce que ça veut dire que c'est détruit totalement? Bon, je ne dirais pas. Mais il y a un danger de ça. Et nous voulons maintenant, de la part du gouvernement, les signes concrets qu'ils vont permettre l'opposition, ils vont promettre liberté d'expression. Et ils veulent, comme a dit le chef de l'État dans son discours de l'inauguration, ils veulent l'inclusivité, la réconciliation et un essai ensemble d'aller améliorer le pays.
Antoine Gonda, vous êtes député national de l'ANP. Qu'est-ce que vous répondez à l'ambassadeur Andy Sparks de Grande-Bretagne par rapport aux inquiétudes sur la suite, notamment la liberté d'expression et la place de l'opposition politique?
Bon, je pense que ce n'est pas à l'ambassadeur Andy Sparks.
Bien sûr, l'Union européenne,
qui sont donc pour pouvoir nous aider, nous assister. Bon, moi, je pense que il faut pouvoir nuancer un peu. Je crois que la petite erreur ou la grosse erreur qu'on est en train de faire, c'est de vouloir limiter ou restreindre l'opposition à la personne de Jean Kabemba. Donc ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faut pouvoir corriger parce que c'est une injure vis-à-vis des personnes, par exemple telles que Étienne Tshisekedi, et même par rapport au cadre du MLC, parce que dans ce qui s'est passé au petit dérapage, si on peut appeler cela ainsi, parce qu'on a parlé d'un petit d'un dérapage ici, aucun cadre du MLC n'a été associé à cela. Et déjà, l'émission qu'on est en train de faire ici prouve à suffisance que l'expression démocratique de la part de la majorité, de la part du gouvernement, demeure et persiste. Vous n'avez qu'à lire la presse de ce matin. Je crois que dans un pays ou dans un État où il n'y a pas les droits, où il n'y a pas la liberté, les gens ne peuvent pas s'exprimer ainsi et aucun des médias ne peut dire aujourd'hui par rapport aux titres qu'ils font, soit aux injures qu'ils peuvent faire vis-à-vis de la personne du président de la République ou vis-à-vis du Premier ministre ou même vis-à-vis du sénateur Jean-Pierre Bemba, aucune de ces personnes-là n'a été inquiétée jusqu'à présent. Donc par rapport à cela, je crois qu'il y a quand même des indices et des signaux qui sont clairs et qui attestent que de la part du gouvernement, de la part de la majorité et de la part même des décideurs en général, avec le soutien de la communauté internationale, comme l'a dit le chef de l'État lui-même, que violer ou mettre en péril entre les positions, ce serait un acte de haute trahison, parce que c'est constitutionnel. Donc déjà par rapport à cela, je crois qu'il faut quand même qu'on puisse mettre de l'eau dans notre vin et surtout que nous ne puissions pas donner une image irresponsable du pays. Et je crois que par rapport à la démocratie, par rapport à la liberté d'expression des uns et des autres, et par rapport à l'opposition, en tout cas en général, je crois qu'on doit pouvoir dire qu'aujourd'hui, personne n'est au-dessus de la loi, et c'est quelque chose qu'on doit pouvoir respecter. Et je vois mal comment est-ce qu'on peut commencer à vouloir museler une opposition, je ne pense pas. On parle du problème de la personne de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, une tweet et personne ne représente pas l'opposition.
Ah, vous entendez
de l'opposition, c'est là, il ne faut pas qu'on puisse généraliser sur un individu qui s'est révélé sur un processus et sur une constitution.
Ah, vous entendez parler Antoine Gonda, c'est comme si c'est vous qui vouliez mettre de l'ordre dans l'opposition.
Non, ce n'est pas moi qui mettre de l'ordre dans l'opposition.
Vous avez appelé
un député à pouvoir parler.
Le camp
ANP. Je parle pour une majorité. Je donne mon point de vue comme d'autres donnent aussi leur point de vue. Il ne faut pas que mon niveau, en plus, aussi rester dans ma liberté. Moi, comme tout un chacun peut pouvoir s'exprimer, je donne mon point de vue, et c'est un point de vue, je pense que la majorité, en tout cas, est en train de pouvoir adopter. Sinon, cette émission ici, par exemple, le fait de pouvoir déjà discuter ici de manière libre et sans contrainte, ne pensez-vous pas que c'est déjà un acte qui montre à suffisance que le gouvernement, que la majorité, que le processus est en train de continuer? Ne pensez-vous pas?
Merci Antoine Gonda. Place. Nous regardons dans l'émission. Antoine Gonda, place aux opinions des auditeurs avec Pamela Amunazo.
Didier Azumbashi dans le Katanga pense que l'Union européenne a raison, le gouvernement doit assurer la sécurité de la population et non pas la tuer. Isidore Pembe Kengene à Kananga, au Cathay occidental, croit que les ambassadeurs doivent cesser de condamner le gouvernement parce que la RDC est en pleine reconstruction.
Oui, Armando Kalimi au Katanga.
Et Armando dit ceci, que les ambassadeurs laissent les Congolais appliquer leurs lois parce qu'ils peuvent être des couteaux à double tranchant. Yves Mampouya à Beni au Nord Kivu pose la question question suivante. Quel sera l'apport de l'Union européenne pour consolider la sécurité? Et Richard remercie les ambassadeurs pour leur soutien parce que le gouvernement en place devait instaurer la dictature. Michel Longa à Kinshasa dit que la RDC n'a pas de leçon à recevoir de l'Union européenne. Notre seul péché est d'avoir accepté leur financement pour les élections.
Et on termine par Amouli de Goma.
Oui, enfin Amouli de Goma pense que le monde peut périr pourvu que la loi soit respectée.
Monsieur l'ambassadeur en Dispax de Grande-Bretagne, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre des auditeurs?
Bon, alors, moi aussi, je pense que la loi doit être respectée. Et par rapport à la loi, nous avons une longue voyage devant nous avant qu'on arrive à un vrai état de droit dans ce pays. De dire qu'on respecte la loi est facile à dire, mais dans un état où, jusqu'à ce point, malheureusement, c'est plutôt facile d'avoir ses droits devant la loi si on a l'argent, mais pas du tout si on n'a pas de l'argent, ça c'est pas bon. Donc, par rapport à la loi, je dirais cela. Par rapport à la question de qu'est-ce qu'on va faire pour sécuriser le pays,
consolider
la sécurité, c'est une des plus grandes priorités de la communauté internationale de travailler sur la réforme du secteur de sécurité. La Grande-Bretagne, je parle pour eux, nous avons fait beaucoup pour la police, pour la réforme de la police, ça continue. Et aussi, nous sommes un des joueurs qui essayent de coordonner les efforts pour améliorer la situation de l'armée. Mais nous avons vu l'état des choses avec l'armée les derniers quelques jours. Il y a un grand travail à faire là. L'armée en ce moment est totalement indisciplinée.
Merci. On va écouter aussi le député national de l'AMP, Antoine Gonda.
Ben, je crois qu'on prêche, vous prêchez un converti. Je suis, comme vous avez dit, un député national. Je suis élu, donc je représente une certaine population, donc je ne peux qu'être solidaire avec eux, en nuançant un peu, en disant, bon, aujourd'hui, l'objectif, c'est de ne pas regarder qui est un afro-pessimisme, bien au contraire, il faut qu'on puisse regarder l'avenir avec beaucoup d'optimisme, et en retenant, en tout cas, les leçons du passé, les erreurs commises, ne doivent plus être reproduites. Et par rapport à cela, je crois qu'il faut qu'on puisse se serrer main dans la main, évidemment, en mettant en avant-plan le respect de la loi, la protection de la population, pour que, finalement, la démocratie puisse émerger et que la République démocratique puisse se lever. C'est ça qui est important pour moi.
Merci Antoine Gonda. Je rappelle que vous êtes député national de l'AMP. Une autre question d'un auditeur, monsieur l'ambassadeur Andy Spax, de Grande-Bretagne, Michel Longa, qui dit que la RDC n'a pas de leçons à recevoir de l'Union européenne, que notre péché, hein, je cite, est d'avoir accepté le financement des élections par l'Union européenne. Comment est-ce que vous lui répondez?
Je suppose que ce monsieur-là, il préfère la guerre civile. Parce que sans l'appui de la communauté internationale, les grands efforts, non seulement des Européens, mais peut-être surtout des Africains, les frères africains, les Sud-Africains, on n'aurait pas cette situation, on n'aurait pas eu ces élections que nous avons financé à 95%, et le pays serait toujours dans une guerre civile qu'au moment où toutes ces négociations commençaient, cette guerre civile était dans une sorte de d'impasse.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Andy Spax de Grande-Bretagne. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce dialogue entre Congolais. Merci à toute l'équipe de DEC d'avoir réalisé cette émission et Willem Lungamba qui était à la technique. Bonne suite de programme sur Radio Capitale.